Les jardinières.
Je ne trouve plus mes feuilles. Ça y est, bah oui, c'est samedi et comme chaque samedi matin, nous allons parler jardinage. Les jardinières, c'est votre émission. Vous posez vos questions à notre professionnel. Il y répond, mais avant de prendre sa bêche et sa brouette, on se dit bonjour. Bonjour Raphaël.
Mais bonjour Mylène, j'espère que ça va aller pendant cette prochaine heure. Et bien sûr, bonjour à notre invité, notre professionnel aujourd'hui, Fabrice Rondet. Bonjour Fabrice.
Bonjour à tous.
Fabrice, vous êtes paysagiste et propriétaire de Fabrice Rondet SARL à Port-en-Truy. Vous êtes en notre compagnie jusqu'à 8h pour répondre aux questions de tous nos auditeurs. Et on rappelle toujours trois possibilités pour nous faire parvenir vos questions. Vous pouvez le faire par téléphone. Vous nous appelez au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Sinon, vous avez l'option SMS. Vous tapez jardin, un espace et votre question que vous nous envoyez au 939 ou par le formulaire qui se trouve sur notre site internet. Vous allez sous l'onglet émission questions jardinières et vous pouvez même rajouter une photo.
Bon réveil à tous et bienvenue chez les jardinières.
7h, 8h, les jardinières.
Les températures ont été des plus généreuses cette fin de semaine. On a peut-être envie de se prélasser au soleil, un petit cocktail à la main. Mais le jardin, lui, ne se repose jamais. Dites-nous Fabrice, nous sommes le 23 mai, quelles sont les tâches à effectuer au potager ?
Alors au potager, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être finir de le garnir avec les semis, avec les plantations. On va contrôler les arrosages. On va suivre un petit peu ce démarrage qui se fasse en douceur et correctement. Pour tout ce qui est des plates-bandes fleuries, on va faire cette fameuse tâche du désherbage pour mettre en évidence ces fleurs. Tailler après floraison pour les arbustes. Puis on va continuer de regarder aussi si tout se déroule bien au niveau des fruitiers, petits fruits qui commencent de faire grandir leurs fruits maintenant.
Je profite pour rebondir. On voit que la météo de cette journée nous annonce quand même passablement d'orage. Est-ce que c'est bon justement pour le potager d'avoir comme ça, après quelques jours assez chauds, d'avoir un retour avec un peu plus d'humidité ?
Oui, c'est clair que pour le jardin potager, pour tout ce qui est gazon, pour les nouvelles plantations, même pour les anciennes, de revoir un petit peu une baisse de température et puis une pluie fine qui tombe régulièrement sur plusieurs heures, ça va descendre en profondeur et ça va faire beaucoup de bien.
Merci beaucoup Fabrice. Vous vous demandez pourquoi votre prunier perd ses feuilles ou comment éloigner les limaces de votre salade? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Fabrice répond à vos questions et ça jusqu'à 8h.
Attrapez votre téléphone et composez le 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute et la chance de parler directement à notre jardinier professionnel. Ou posez votre question par SMS, vous tapez jardin, un espace et votre question, vous nous l'envoyez au 939 ou via le formulaire disponible sur notre site sous l'onglet émission questions aux jardinières. On reçoit vos questions auxquelles Fabrice Rondet, notre jardinier professionnel, répond. On va se lancer tout de suite avec une question qui parle d'un pommier. Mon pommier en colonne a fait beaucoup de fleurs cette année et il y a vraiment beaucoup de fruits. Je me demande s'il est nécessaire d'en éliminer ou pas. Je l'ai planté il y a 2 ans et à chaque fois les pommes tombent avant d'être mûres. Je me demande si ce n'est pas une question de poids. J'aimerais bien pouvoir en manger. Cette année, c'est une question de Ingrid de Fenin et il y a une photo de son pommier en colonne. Fabrice, on vous laisse répondre à Ingrid.
Alors, pour ce pommier, comme sur beaucoup d'arbres, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on attend que la période de mai-juin soit passée, parce qu'à cette période-là, on a la chute naturelle des fruits qui va s'opérer. Et une fois que cette période s'est mise en place, ce qu'on peut faire, si on a encore beaucoup de grappes de fruits sur nos arbres, on peut garder par bouquet une pomme et tous les 15 cm. En faisant comme ça, on va mettre beaucoup plus d'énergie sur les fruits sélectionnés et on va les porter à maturité. Ils auront des beaux diamètres et ils auront aussi une meilleure conservation par rapport à tous les fruits qu'on aura sélectionnés. Ce sera tous les fruits qui sont tachés ou qui sont de petit diamètre. Donc on va garder que les plus beaux.
Merci beaucoup Fabrice pour votre réponse. Je vous propose d'enchaîner avec une autre question que l'on a reçue durant cette semaine qui nous vient de Philomena de Kourou. Elle nous dit bonjour à toute l'équipe des jardinières. J'ai trouvé ces grosses larves en faisant mon jardin. Elle nous a joint même une photo avec. J'en ai pas mal. J'en ai également dans mes pots de fleurs. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est dangereux? Elle a même pensé à les envoyer pour l'émission Koh-Lanta pour un petit repas, que je trouve une excellente idée. Non, sérieusement, qu'est-ce que je dois faire? Et qu'est-ce que c'est comme bestiole? Merci beaucoup pour votre réponse.
Alors, c'est tout simplement des larves de sétoine. C'est une petite larve qui va nettoyer en fait la terre, qui va manger tous les détritus qui sont morts, style racines mortes, bout de tige morte, feuilles mortes, ces choses-là. Donc, ce qu'il faudrait qu'elle fasse, c'est soit les enlever et puis les mettre dans un lieu où c'est que ben, les oiseaux vont se faire un régal avec. Mais autrement, elle peut les remettre, si elle fait du compostage, les remettre tout simplement dans un compost où là, ils veulent se retrouver en milieu favorable, où c'est qu'ils vont pouvoir aussi s'occuper de tout ce qui est matériaux verts qui sont mis dans ce compost, qui sont morts.
Je me demandais, là, vous avez parlé des sétoines qui mangent les racines sèches ou mortes et tout. On ne peut pas les laisser ? Elles sont considérées comme nuisibles quand même ?
Non, ce n'est pas qu'elles sont nuisibles, mais ça peut perturber et puis ça peut un petit peu embêter les gens. Après, on peut avoir des jeunes plantons qui sont peut-être aussi mis à partie. On ne sait pas si c'est ça, on ne sait pas si c'est pas ça. Mais moi, je pense que si elle les enlève, elle sera rassurée. Et puis comme ça, après, elle va enlever un doute.
Parce que souvent, ces larves de sétoine, on les confond avec celles du hanneton.
Oui.
Qui, celles-là, sont plus, entre guillemets, dangereuses pour le jardin.
Oui, mais aussi, on les rencontre, ces larves d'hanneton, plutôt dans les gazons, en général. Parce qu'ils vont se nourrir des racines plutôt de ce gazon. Et puis, dans le jardin, on peut en rencontrer, mais un petit peu moins quand même. C'est moins fréquent d'en trouver, là. C'est vraiment dans le gazon qu'on le rencontre en grande majorité.
En tout cas, ça nous donne appétit ce matin. On peut rappeler éventuellement peut-être les numéros pour nous joindre, 0900 170 20 20, pour parler avec nous en direct. Vous avez jusqu'à 8 heures pour le faire, pour poser vos questions à notre spécialiste Fabrice Rondet. Sinon, vous avez l'option SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question que vous nous envoyez au 939. Ou sinon, vous avez toujours le formulaire disponible sur notre site internet sous l'onglet questions aux jardinières.
7h, 8h. Les jardinières.
Les jardinières, c'est votre rendez-vous jardinage du samedi matin. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Vous pouvez poser vos questions au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Et c'est même Raphaël qui répond au téléphone.
Oui, heureusement que c'est moi, hein, je pense. Parce que ce matin, si c'est vous qui répondiez au téléphone, Mylène, je ne sais pas si on aurait des auditeurs.
Mais vous êtes sympa. Vraiment, merci beaucoup. Vous pouvez aussi envoyer vos questions par SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question. Vous nous l'envoyez au 939, comme l'a fait cette personne qui nous parle de sa plante de rhubarbe qu'il a plantée l'année dernière en pleine terre. Et elle a des taches brunes qui sont apparues sur les feuilles. Elle nous demande que faire.
Alors moi, je m'en soucierais pas tellement, je dois avouer franchement, parce que la rhubarbe, ça pousse tellement rapidement. Ce qui nous intéresse, c'est les côtes aussi. Donc, du fait que ça va mettre une petite semaine pour qu'elle soit prélevée, cette côte, et le feuillage va partir au compost, et puis nous, on va manger que la côte. Si c'est que quelques taches brunes, bah, on peut laisser ça comme ça, plutôt que d'utiliser des produits à mauvais escient dans son jardin.
Donc, laisser faire la nature, finalement.
Sur un cas comme ça, oui, parce que c'est peut-être juste quelque chose qui a été peut-être blessé, ou alors parce que ce n'est pas vraiment connu pour avoir des maladies. On peut avoir des fois quelques pucerons, mais ce n'est pas une plante qui est connue pour avoir des maladies, c'est assez rustique.
Merci beaucoup Fabrice pour vos réponses. Vous continuez à nous poser vos questions, hein, par téléphone, par SMS ou via notre site internet. Et on va enchaîner, Mylène, avec cette question. J'ai entendu dire que les fenouilles faisaient fuir les limaces. Est-ce que c'est une info ou une intox ?
Alors c'est bien une info parce que en fait, compte, c'est juste l'odeur qui agit comme un répulsif par rapport à la limace.
Est-ce qu'il y a d'autres plantes ou astuces pour faire fuir les limaces ? Parce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, sur des questions qu'on vous pose ici chez les jardinières, que les limaces, c'est vraiment un fléau dans le jardin.
Alors oui, c'est juste, mais ça peut être lié à plusieurs choses. Mais dans les choses qui fonctionnent, on sait qu'on a la cendre qui marche aussi. Mais il faut faire attention au grammage, par exemple, parce que là, si on met trop de cendre dans son potager, on peut avoir des effets au niveau des blocages sur de la libération de certains minéraux ou choses comme ça au niveau des plantes. Et puis on peut rendre aussi la terre... Si elle est vraiment trop forte, cette application peut rendre la terre presque colmatée, comme argileuse. Et puis après, ça fait vraiment comme une masse spongieuse. Donc, mais après, au niveau des répulsifs, oui, il existe d'autres plantes, mais ça, vous pouvez tout retrouver aussi sur les moteurs de recherche, où c'est que vous allez trouver toutes les plantes par rapport à ce que vous aimez, ce que vous aimeriez cultiver, si c'est juste décoratif ou bien utilitaire.
Merci beaucoup, Fabrice. Raphaël, je crois que vous avez une personne au téléphone.
Exactement, Elisabeth de Basse-Cour, pardon, qui a une question pour Fabrice. Bonjour, Elisabeth.
Bonjour.
Bonjour.
Allez-y, Elisabeth. Votre question à notre spécialiste.
Oui, alors, mon mari a fait du purin d'ortie. Tous les combien il faut en mettre? Et puis, si on peut pailler les concombres et puis les tomates?
Alors, pour le purin d'ortie, donc, vous avez vu qu'il y avait probablement, après une petite recherche, qu'il y a un temps de macération qui est important. Après ce temps
oui,
de
alors on l'a mis.
Voilà, donc après ce temps de macération, ce qu'on a aussi, c'est qu'on a une dilution qui est importante aussi, parce que par rapport à ça, on peut l'utiliser, par exemple, contre des insectes, on peut l'utiliser en engrais. Donc, il faut savoir ce que vous voulez en faire. Donc ça, ça a vérifié puis à diluer juste. Et puis après, au niveau du paillage, c'est un petit peu pareil. Donc vous pouvez en utiliser pour plusieurs choses, pour plusieurs cultures. On peut avoir les fraises, on peut avoir les concombres, on peut avoir les courgettes, on peut avoir les tomates, on peut avoir plein de choses comme ça, même des aubergines, des poivrons. Ça va garder le frais, l'humidité au niveau des sols. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on peut avoir des ravageurs qui viennent parce que qui dit humidité, par exemple, dit zone intéressante pour les limaces. Donc après, vous pouvez avoir des choses comme ça aussi qui peuvent se développer et puis avoir des petits écosystèmes intéressants pour d'autres choses. Donc oui, ça c'est bien quand même. Ouais.
Alors c'est gentil, je vous remercie beaucoup. Mais merci, le purin d'ortie, le purin d'ortie, il faut en mettre souvent. Il est dilué, il l'a dilué, mon mari.
Alors, pour les engrais, comme pour...
Comme engrais, pas pour traiter, comme engrais.
Je pense comme engrais, vous pouvez en mettre une fois par semaine, peut-être. Vous en mettez, par exemple, chaque week-end, mais faites attention aux dilutions pour que ça fonctionne bien, pour le temps de macération, pour que ça fasse l'effet aussi souhaité.
Merci. C'est gentil, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous de votre appel, Elisabeth.
Merci, on
vous souhaite
bonne
un tout
journée.
Bon
journée.
Merci,
merci à vous aussi, merci.
Les jardinières.
Bienvenue dans cette deuxième partie des jardinières. Si vous avez loupé la première, vous retrouverez l'émission au complet en podcast sur notre site internet en cours de matinée. Il vous reste une petite demi-heure pour poser vos questions jardinage. Ce matin, c'est Fabrice Rondet, paysagiste à Port-en-Truy et propriétaire de Fabrice Rondet SARL qui vous répond.
Et justement, pour poser vos questions, vous ne connaissez pas encore les trois possibilités, ben on vous les rappelle. Déjà, vous avez par téléphone, vous nous appelez au 0 901 70 20 20 pour 36 centimes la minute et vous posez votre question en direct à Fabrice. Ou si vous êtes timide, vous avez l'option SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question que vous nous envoyez au 939 ou par le formulaire disponible sur notre site internet. Vous allez sous l'onglet émission, questions ou jardinières et vous avez même la possibilité de joindre une photo.
Comme l'a fait Corinne de Neuchâtel qui nous dit « Bonjour, nous avons planté l'année passée un mûrier dans notre jardin au sud de la France, mais cette année nous n'avons aucune feuille alors qu'il n'est pas sec. Quand on prend un bourgeon, il est vert à l'intérieur et il est arrosé régulièrement. » Merci pour votre réponse. Et Corinne a joint d'ailleurs une photo du mûrier. C'est vrai, il est tout nu, il est tout sec. Enfin, il a l'air. Fabrice, vous y connaissez mieux que moi.
Alors, c'est vrai qu'il a l'air comme ça, mais je pense que s'il est vert, c'est là tout vérifier les extrémités de ses branches et puis que tout est vert. C'est pas super grave, parce que ce qu'il peut y avoir, c'est quand même, d'après la photo, c'est pas un simple mûrier, peut-être pour les auditeurs, mais c'est un arbre-tige, c'est pas le mûrier, la ronce qu'on a l'habitude de quand on en parle de trouver dans nos jardins. Donc cet arbre-tige, donc, c'est un grand sujet. Je pense qu'elle l'a planté à l'automne dernier et du fait, il va mettre plus de temps comme son ancrage et puis son enracinement s'est pas fait encore exactement. Donc, il va mettre plus de temps à démarrer. Donc, il faut juste lui laisser le temps de se réveiller. Ce qui est important, c'est continuer cet arrosage, continuer de surveiller que son amarrage soit bien fait, son tuteurage, parce que j'ai pas l'impression de voir un tuteur pas qu'avec le vent, les racines le déchausse et puis fragilise son démarrage, sa reprise. Et puis, en faisant ça, il ne peut que démarrer, mais avec un peu de retard, du fait que c'est une pièce assez importante.
Merci beaucoup Fabrice pour Corinne de Neuchâtel qui nous avait écrit cette question. On enchaîne avec une nouvelle. Bonjour, en fin de saison, l'année passée, j'ai mis ma plante de verveine à la cave. Il y a quelques petites fenêtres. J'avais taillé la plante avant de l'hiverner. Elle commence à faire de nouvelles feuilles. Je vis à environ 700 mètres d'altitude. Quand est-ce que je pourrais la sortir et à quoi faire attention ?
Alors maintenant, si elle commence que de faire ses premières petites feuilles, ce qu'il faut faire, c'est la sortir parce qu'on est sorti des froids au niveau nocturne. Donc à surveiller quand même, on ne sait jamais, mais normalement on devrait en être sorti. Maintenant, ces petites feuilles, elles sont assez fragiles, donc y aller progressivement peut-être, pas le mettre tout de suite sur un soleil assez fort, mais à 700 mètres, je pense qu'elle peut le mettre sans trop de problèmes déjà en mi-ombre, et puis après la sortir complètement dans son lieu définitif, et puis l'arroser, et puis la plante va se réveiller gentiment et se refaire pour cette année.
Merci Fabrice. On va enchaîner avec une nouvelle question reçue par SMS. Bonjour, pardon, comment allez-vous ? Nous ça va, on espère que vous aussi. J'ai acheté une aloe vera et j'aimerais savoir s'il faut un terreau spécial pour la changer de pot. Faut-il lui donner à boire, si oui, tous les combien de temps ? Et dans l'appartement, où faut-il la placer ? Meilleure salutation, c'est une question de Roxy.
Alors pour l'aloe vera, donc il faudra regarder chez un fournisseur et puis lui préciser, puis il va, par rapport à son achalandage de terreau, il va lui préciser lequel est le mieux adapté pour cette plante d'appartement. Ensuite, par rapport à ça, son emplacement, elle aime bien les endroits où c'est qu'il y a un bon ensoleillement, peut-être pas directement derrière une fenêtre, mais si on a un ensoleillement assez copieux dans la journée, ça va bien aller. Pour l'arrosage, pas trop arrosé, moi je dirais d'humidifier la plante, de laisser ressuyer, et puis on peut remettre une fois tous les semaines, voire même 10 jours, et elle va bien se développer.
Merci beaucoup Fabrice. Peut-être encore une dernière question avant de refaire une petite pause, Mylène.
Oui, allons-y.
J'ai des plantes de lavande, mais je ne les ai jamais taillées. Du coup, les tiges sont longues et nues. Est-ce que je peux les tailler maintenant ou non ? C'est une question de Serge de la Heute.
Alors, il faudrait les tailler. Il faudrait conserver 5 cm au bout du bois qui comporte encore des jeunes feuilles, enfin des anciennes feuilles, pour qu'au moins à ce niveau-là, les bourgeons puissent redonner vie à un nouveau démarrage. S'ils taillent trop sévère, il se pourrait que sa plante sèche et rien ne vienne. Donc prendre le bois, compter 5 cm en dessous du bois, c'est qu'il y a des jeunes feuilles, il peut rabattre à ce niveau-là.
Merci Fabrice. On rappelle que vous pouvez poser vos questions par téléphone au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Par SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question, vous nous l'envoyez au 939 ou via le formulaire disponible sur notre site internet sous l'onglet émissions, questions aux jardinières. Nous avons reçu une question de Marie de Courfèvre qui nous parle de sa plante. Quand doit-on tailler une bignonne ? La mienne est énorme, mais nous l'avons taillée à l'automne dernier. Je ne la trouve pas très bien ce printemps. En plus, elle est pleine de pucerons. Alors, Fabrice, on vous laisse répondre à Corinne. À Marie, pardon.
Alors, on a déjà deux choses différentes. C'est que la taille et les pucerons. Donc, la taille, en général, on a plutôt l'habitude de les tailler à la sortie de l'hiver, plutôt sur mars-avril, donc juste avant leur démarrage de la végétation. Je pense que si elle est grande, c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas été assez sévère au niveau de sa taille et puis qu'elle ne l'a pas assez comprimée. Maintenant, pour les pucerons, tout simplement, elle peut attaquer avec un traitement, mais juste un produit qui va s'occuper uniquement des pucerons, en faisant attention de ne pas toucher tout ce qui est abeilles, enfin les autres insectes qui nous sont très utiles. Et puis ça, on peut trouver dans le commerce ou alors le fameux savon noir.
Merci beaucoup Fabrice, vous continuez à nous poser vos questions par téléphone 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous avez également l'option formulaire comme vient de le faire Marie, vous allez sur notre site internet et vous avez sous l'onglet émission questions aux jardinières. Sinon vous avez l'option SMS, vous tapez jardin un espace votre question que vous nous envoyez au 939 et c'est le cas de Florence qui nous a écrit ce message. Bonjour, après floraison du lilas, faut-il couper les fleurs fanées ? Merci beaucoup Fabrice, votre réponse.
Alors, les couper, oui, on peut. Donc, ça ne peut que profiter à la plante. Et puis, au niveau esthétique, ça va aussi l'enjoliver. Après, le laisser, ça ne va pas porter un préjudice. Et c'est juste vraiment sur un côté esthétique plutôt, ces fleurs comme sur les rhodos, des choses comme ça qu'on laisse. Donc, les deux choses sont faisables. Ça dépend celle-là du temps, ça dépend de la grandeur de la plante, le courage qu'elle a. Ça dépend de tout ça un petit peu.
On ne peut rien en faire de ces fleurs fanées, séchées du lilas.
Ben, on peut essayer éventuellement de s'amuser à récolter les graines pour en refaire des semis ou des choses comme ça, mais probablement qu'il y a quelque chose qui existe, qu'on peut faire, mais pas à ma connaissance. Mais on peut creuser la question.
Merci beaucoup Fabrice. On vous rappelle que vous avez encore quelques minutes pour poser vos questions par téléphone au 0900 70 20 20, pour 36 centimes la minute. Toujours le formulaire à disposition sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières, ou par SMS. Vous tapez jardin un espace votre question, vous nous l'envoyez au 939. Nous venons de recevoir une question de Denis de Courtemèche qui nous dit: bonjour, j'ai dans mon gazon beaucoup de grillons, ce qui occasionne aussi beaucoup de trous assez grands. Comment procéder pour diminuer cette population de grillons? Merci de votre réponse.
Alors là, je sais qu'il existe un produit qui fonctionne bien contre les grillons, qu'on peut retrouver chez les revendeurs. Après, est-ce qu'il y a un autre moyen de lutte plus à part ça? Je ne sais pas honnêtement, mais je sais que ce produit-là fonctionne assez bien.
7h, 8h, les jardinières.
8h moins 10, juste le temps de prendre encore une personne au téléphone, Raphaël.
Exactement, c'est Anne qui nous appelle et qui a une question pour Fabrice. Bonjour Anne.
Oui, bonjour tout le monde. J'aimerais savoir s'il y a quelque chose qui peut empêcher l'oïdium sur les concombres et les courgettes, parce que j'ai vu que mes petits plantons ont déjà un petit signe d'oïdium.
Bonjour Anne. Alors, pour ça, c'est peut-être lié à un arrosage que vous avez fait. Ils sont déjà en plein air, j'imagine.
Ils sont en plein air, oui.
Oui. Donc, on a un taux d'humidité qui favorise le développement de ce genre de choses avec les températures actuelles qu'on a. Donc, mis à part ça, non, on a pas grand-chose qu'on peut faire si c'est en plein air. Autrement, si ça avait été en serre, en tunnel, des choses comme ça, on pourrait peut-être contrôler un milieu plus adéquat pour un bon développement. Mais là, si c'est en plein air, au niveau de l'hygrométrie puis des températures, vous pouvez que prendre ce qui vient. Donc après, au niveau de la lutte, il y a la façon bio et puis pour remédier à ça. Donc
ouais. La façon bio, c'est quoi exactement?
On a des produits bio qui existent pour combattre cet oïdium.
Que je peux trouver en jardinerie?
Oui, vous pouvez trouver ça dans tous les points de vente.
D'accord. Ok, alors je regarderai ça.
Merci beaucoup de votre appel, Anne. Une toute belle journée, un tout bon week-end
aussi.
À vous.
Merci, bonne journée.
Bonne journée, au revoir.
Et pendant la pause musicale, les téléphones ont afflué vers vous, Raphaël.
C'est exactement ça, j'ai même pas eu le temps de profiter de la musique. On a également Janine de Delémont qui ne voulait pas passer à l'antenne, donc du coup, elle m'a transmis sa question. Elle a un gazon devant chez elle où il y a plein de marguerites qui poussent. Elle n'a jamais fait de tonte sur ces marguerites, mais bon, pas de bol cette année. La tondeuse automatique s'en est chargée à sa place. Est-ce que ça va repousser, mon cher Fabrice?
Alors oui, ça veut pousser, parce que si elle en avait plein l'année passée et puis que cette année ils ont été coupés par cette tondeuse automatique, ce qui va se passer, c'est que la rosette de la plante est toujours présente, donc si elle ne tombe plus, la plante va redémarrer. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si elle a mis une tondeuse automatique, on va mettre en place un engrais vert gentiment qui pourrait modifier en fait l'engraissement des sols, qui pourrait faire reculer tout simplement cette population de fleurs qu'elle a dans son gazon. Mais ça dépend du taux de fumure, parce que les fleurs, il faut savoir qu'elles se plaisent dans les endroits qui ne sont pas engraissés et puis dans les terrains plutôt pauvres. Donc en fait, ça tient qu'à ça.
Merci beaucoup Fabrice d'avoir répondu à toutes ces questions. Il est bientôt l'heure pour les jardinières de filer. Mais avant de se quitter, nous allons passer à notre traditionnelle question de fin d'émission. Fabrice, les températures ont été chaudes cette semaine. Elles redescendent un peu aujourd'hui. Dans moins d'un mois, c'est déjà l'été. Ben oui. Que faire au jardin ce week-end?
Alors, on a que l'embarras du choix. Comme on a vu en début d'émission, ben, on va s'occuper de nos massifs fleuris, on va s'occuper de nos végétaux, de nos petits fruits, contrôler que tout se passe bien, éventuellement commencer de les tuteurer, de les palisser pour tout ce qui est grimpant. On va suivre nos fruitiers, on va suivre le potager pour qu'il se développe bien. Et puis, il y a le gazon aussi qu'on va commencer de regarder très sérieusement parce qu'il y a les scarifications qui veulent se mettre en place, il y a les semis. Il y a toutes les réflexions et éventuellement de repenser, de replanter de nouveaux endroits pour un petit peu changer ce qu'on avait l'habitude de voir.
Et là, on aimerait commencer le jardin, par exemple ce week-end, on n'a encore rien fait. Est-ce que c'est possible de planter ou de semer des choses ou c'est déjà trop tard ?
Alors effectivement, on a toujours des prescriptions qui sont notées, qu'il faut faire tel semis ou telle plantation de telle période à telle période, mais est-ce qu'il faut pas oublier, je pense aussi, c'est que si on déborde un petit peu de ces périodes puis qu'on a un petit peu de retard, la terre, elle ne commence que de se réchauffer maintenant. On vient de sortir des saines glaces, on l'a vu, on a eu ce retour de froid. Donc si on démarre une plantation avec des plantons bien enracinés, bien forts, qu'on fait un semis maintenant avec cette terre qui commence de chauffer, qu'on suit à l'arrosage, on va très très vite rattraper le retard ou les personnes qui ont commencé déjà il y a 10-15 jours.
Qu'est-ce qu'on peut planter là ? Le jardinier amateur, il aimerait commencer ce week-end ? Qu'est-ce qui est simple et qui marche bien ?
Oui,
les carottes.
On a tellement de choses, on peut planter déjà tout ce qui est salade, tout ce qui est radis, on peut planter des petits fenouils, on peut planter toutes les variétés de choux, on peut planter les tomates, les poivrons, les aubergines, on peut planter les cucurbitacées, on peut planter vraiment tellement de choses. Je crois qu'il n'y a pas de limite en fait. La seule limite qu'il y a, c'est pour les plantations qu'on doit faire très tôt dans l'année ou alors des plantations qu'on devait faire peut-être même l'année précédente qui sont celles-là à attendre que la saison arrive. Mais pour le reste, on peut tout démarrer maintenant.
La seule limite, c'est notre imagination. Merci beaucoup Fabrice Rondet. On rappelle que vous êtes paysagiste à Porrentruy et propriétaire de Fabrice Rondet SARL. Un immense merci d'avoir été une nouvelle fois en notre compagnie ce matin, d'avoir répondu aux questions de nos jardiniers amateurs. Fabrice, on vous souhaite un bon week-end et on vous dit à tout bientôt.
Merci à vous et un bon week-end à tous.
La semaine prochaine, c'est Philippe Detra, horticulteur bio à Neuchâtel, qui sera des nôtres. Vous pouvez poser vos questions en tout temps, soit via le formulaire disponible sur notre site ou par SMS. On se retrouve samedi prochain.
On se réjouit
dès
déjà.
7h, oui. Passez un bon week-end et surtout, prenez soin de
bon
vous.
Bon week-end.
À bientôt.
Les jardinières.